Nous allons ce matin dans l'Évangile selon Marc, au premier chapitre, les versets 7 à 11. Jean-Baptiste proclamait : « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix : Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert, durant 40 jours, au désert. Il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est bel et bien né dans des régions désertiques et en s'acculturant après avoir débarqué dans notre Europe régulièrement arrosée, avec des forêts, des lacs, des étangs, des flaques d'eau partout, on se dit qu'il a dû changer de visage en venant dans une terre apparemment moins désertique, moins sèche. Il ne faudrait pas se tromper sur le sens du mot « désert » qu'on trouve dans le texte ici, même si le lieu où avaient lieu ces pérégrinations de Jésus avec ses disciples connaissait bien des déserts, de vraies régions désertiques comme celles qu'on nous montre souvent en images. C'est dans un autre désert que Jésus va passer 40 jours. Apparemment, le désert est un univers que nous connaissons bien, malgré nos forêts, nos cieux chargés, bien gris, bien lourds, bien chargés d'eau. Pour la plupart d'entre nous, l'existence semble se dérouler dans une sorte de désert, sans sable, sans glace, pas besoin. Tant notre vie semble aussi uniforme que l'immensité des sables ou des glaces. Nous évoluons, à part quelques exceptions, dans un univers où tout se ressemble. Ce qui caractérise un désert, c'est que si l'on sait qu'on doit en sortir, on ne sait pas tellement dans quelle direction commencer sa marche. Tout se ressemble. Un iceberg ou une dune ressemble à un autre iceberg, une autre montagne de glace ou une autre dune. Pour la plupart d'entre nous, nous semblons occupés à faire la même chose que nos semblables, qui portent bien leur nom pour l'occasion. Ils travaillent dans des bureaux, des salles de classe, des laboratoires qui se ressemblent. Ils s'alimentent dans les mêmes chaînes de supermarchés, sont informés par les mêmes médias, gratuit, emprunte des routes ou des rames de métro identiques. Les rues des villes sont remplies aux mêmes heures de gens qui font à peu près la même chose. Et quand les rues sont vides, ceux qui les remplissaient quelques heures auparavant sont de retour chez eux en train de faire à peu près la même chose que les autres dans d'autres endroits. Chacun à sa manière a l'impression de traverser un même désert en compagnie des mêmes personnes avec qui il établit des relations assez pauvres, assez peu durables, de pauvres relations de voisinage qui le confortent dans son impression de solitude plutôt que de le faire se sentir entouré d'amis ou de proches. Le désert quotidien de millions d'entre nous. Et chacun, évidemment, au milieu de cette solitude, de cette grisaille, de cet indifférencié qui s'étend partout, se cherche une oasis d'espérance. Chacun s'efforce alors de cultiver une sorte d'enclave, de vie privée, quelque chose qui est vraiment à soi, qu'on chérit, qu'on bâtit soi-même, pour échapper autant que possible à la banalité du ou des déserts communs. Une religion peut certainement aussi, et sous certaines conditions, faire partie de ces jardins privés qui nous distinguent de nos voisins. Il devient alors peut-être confortable de penser que cette activité tient lieu d'asile hors du monde, où notre personnalité peut s'épanouir en toute quiétude pendant un certain temps. Cette traversée du désert qui est la nôtre ne ressemble pas à celle de Jésus quand il a été tenté par le diable. Si notre désert personnel n'est apparemment pas un lieu de tentation, tant il ressemble à celui du voisin, ce sont peut-être bien, parfois, nos oasis, nos lieux de refuge, qui pourraient appartenir aussi à l'univers de la tentation. La tentation consiste pour nous à chercher des lieux de refuge à l'écart des autres. Il s'agit de chercher des lieux de confort où seuls les privilégiés de notre choix peuvent nous rejoindre. Nous nous trouvons bien dans nos paroisses, installés confortablement dans notre vie religieuse telle que nous la comprenons. Nous déplorons parfois l'absence des foules, sans vraiment souhaiter que ça change, tant nous nous plaisons à nous retrouver entre nous, qui nous le reproche d'ailleurs. Une des tentations de Jésus fut assez proche de celle que nous venons de décrire, mais à la différence des autres évangiles, Marc ne détaille pas quelles furent les tentations de Jésus. Serions-nous donc libres de les imaginer ? Pourquoi pas ? De les imaginer semblables aux nôtres, au moins par moment ? Pourquoi pas ? Marc fait état cependant de ce même confort spirituel où semble se trouver Jésus, son baptême et la voix qui se fait entendre l'ont conforté, peut-être dans la certitude que Dieu l'avait mis à part. C'est plutôt pas mal comme situation. Sa prédication laisse entendre qu'il était venu pour transformer la vie des hommes, mais est-ce vraiment possible ? Jésus a porté une nouvelle forme de religion, sans doute basée sur le culte en esprit, et qui appelait une démarche de conversion pour ceux qui le suivaient. Il n'était d'ailleurs, d'où le rappel de Jean-Baptiste, il n'était pas le premier à le souhaiter et à le dire. Ils devaient naître de nouveau, tous ces gens. Ne leur disait-il pas que Dieu les attendait dans le secret de leur cœur ? Encore fallait-il en avoir la capacité. C'est à se demander si Jésus ne préconisait pas une sorte de petite religion élitiste pour un petit groupe. La tentation était grande pour les amis de Jésus de constituer un peuple à part, au milieu des masses, de se distinguer un peu comme le ferait une secte qui se retranche, qui se retire, se sectionne du reste pour rester à part. Plus tard, on trouvera ce même comportement dans toutes les communautés chrétiennes de toutes les époques, y compris la nôtre, avec cette question qui nous hante : n'appartenons-nous pas à un petit cercle de gens supérieurs ? Mais le danger véritable de cette situation, c'est que ce soit le diable qui nous rejoigne dans notre refuge de pureté. Si Jésus a été tenté de s'enfermer dans le cercle privilégié de ses disciples, il s'est assez rapidement séparé de cette manière de voir pour entraîner les siens sur les routes à la rencontre des autres. Oui, lui est sorti de ce petit milieu. Ils ont dû le suivre d'ailleurs, à grand-peine pour certains d'entre eux, dans les déserts de Galilée, des déserts bien réels, où l'on a soif, où l'on est fatigué, là où la souffrance et la misère des hommes les attendaient. Oui, dans ceux-là, on peut beaucoup souffrir. C'est alors qu'ils ont croisé toutes sortes de gens, des malades, toutes sortes de païens en quête de vérité, comme eux, toutes sortes d'hommes, toutes sortes de femmes, impurs mais avides d'espérance, comme eux. À tous ces meurtris du voyage, Jésus savait parler de confiance, de conversion, de vie en esprit et de vie intérieure. Tous ces gens considérés comme incapables de comprendre se mettaient subitement à comprendre, se convertissaient, eux qu'on croyait immuables, changeaient leur vie, eux qu'on croyait encroûtés dans leurs habitudes. Plus tard, ce ne sont pas ces gens-là qui ont voulu la mort de Jésus, on le sait bien, mais ceux qui auraient dû être accessibles à ses paroles, ceux qui déjà s'étaient séparés des autres pour vivre dans leurs petits oasis de séparés, ceux qui ont cru jusqu'au bout qu'ils étaient les purs. Quand Jésus parlait de pardon à ceux qu'il suivait, il signifiait que le jugement final qui avait déjà été prononcé ne les atteindrait pourtant pas s'ils acceptaient d'être graciés. Quand il parlait de partage, il commençait lui-même à partager ses propres provisions. C'est pourquoi il a crié au miracle, on a crié au miracle quand il l'a fait une bonne fois. C'est pour cela qu'on a raconté cet événement de manière merveilleuse, comme si véritablement il pouvait multiplier les pains, d'une certaine manière, bien entendu. En tout cas, quand il a parlé d'espérance, Jésus souhaitait que ses paroles auraient, un jour ou l'autre, ou immédiatement, ou plus tard, un effet immédiat, que les bourses des plus fortunés allaient se délier en faveur des plus pauvres. Il croyait que la conversion vers une société plus juste allait se produire, effaçant des différences trop grandes, à défaut d'effacer toutes les différences. Ces paroles avaient beau résonner avec des accents de parole de Dieu, puisque c'était son accent, elles n'étaient pas forcément suivies d'effets, nous le savons. Les paroles de Jésus visaient à ouvrir les portes de toutes les oasis et de tous les confortables refuges spirituels, mais il a vite perçu que le miracle ne se produirait vraiment que s'il payait de sa personne. Ce n'est qu'après sa mort que sa parole est devenue parole de vie et parole de Dieu en même temps. La mort même a cessé d'être la dernière étape de la vie, parce qu'en livrant sa vie aux mains des hommes, il a reçu, ainsi que tous les siens, tous ses amis, tous ses disciples, une vie éternelle que Dieu seul pouvait donner. Il a reçu en donnant. C'est à cela que consiste, en cela que consistait sa manière de voir la religion, si on peut appeler ça comme ça. Ce ne sont pas les déserts humains de nos sociétés qui sont les lieux de tentation pour ceux qui parcourent aujourd'hui un chemin de foi, quel qu'il soit, et nous savons qu'ils sont nombreux. Ce sont les lieux où la chaleur spirituelle risque peut-être de nous maintenir à l'écart des autres. Le défi qui nous est posé aujourd'hui est de convertir nos églises, puisque ce sont des lieux de conversion, et que les premiers à se convertir sont ceux qui s'y rendent. Convertir nos églises en lieux de vie sans qu'elles soient menacées de disparaître dans l'anonymat du désert humain dans lequel nous vivons tous. C'est cet équilibre que nous devons trouver pour que notre propre vie et nos églises, comme lieu de vie, ne soient ni des déserts d'indifférence, ni des citadelles de certitude fermées à toute influence extérieure. La société française, comme les autres sociétés européennes, et au-delà ce qu'on appelle avec un grand flou le monde occidental, donne fréquemment l'image du désert, grisaille, indifférencié, médiocrité technomarchande, comme seul horizon. C'est ce que nous arpentons à longueur de journée. L'absence d'identité marquée, libre circulation des personnes et des biens, et surtout des biens, et qui fait ressembler notre continent à un supermarché ou un hall de gare. Mais pourtant, les citadelles de certitude existent aussi. Il y a le désert, l'indifférencié, il y a aussi les citadelles de certitude qui sont très dangereuses. Elles se présentent comme des petits îlots de résistance à la réalité ambiante, pas terrible, et ce qu'on y trouve fait parfois froid dans le dos. Dans certains groupuscules ou sur Internet, il suffit de lire quels objectifs, quels buts se donnent ces petits groupes de gens pour commencer à avoir peur. Pour ce qui est de notre désert, il faudra trouver certainement un nouvel équilibre entre appartenance et liberté, équilibre qui répondrait à tous nos besoins, sans doute pas, mais aux besoins les plus essentiels. Mais du côté des citadelles de certitude, il faudra vivre à côté d'elles et les démanteler patiemment pierre par pierre pour défaire les remparts qui rendent fous furieux ceux qu'ils sont censés protéger. Et il faut commencer par nous. Alors, une fois ces barrières levées, nous pourrons enfin nous parler. Amen.